C'est déjà presque la fin du mois de juillet. Il semble que pour beaucoup, le temps des vacances passe plus vite que le temps du travail. Il y a un très beau poème par le poète français Alphonse de Lamartine qui disait: autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est une traduction par la fille de Billy Graham qui rend bien ce désir que souvent nous avons de dire au temps: stop, c'est bien, arrête, Seigneur. Aujourd'hui, dans notre passage, nous allons voir que Josué va dire la même chose. Mais au lieu de s'adresser au temps, il va s'adresser à Dieu. Et il ne va pas le demander pour avoir plus de plaisir sur terre. Il va le demander pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie sur la terre. Et la chose extraordinaire, c'est que nous allons voir que Dieu va répondre à cette requête apparemment insensée d'arrêter le temps. Souvenez du contexte. Josué est en train de faire la conquête de la terre promise. Il y a eu les victoires de Jéricho. Lorsqu'il dépendait totalement du Seigneur. Et puis les défaites de Haï. Lorsqu'il a compté sur ses forces, le Seigneur a dû lui montrer qu'il y avait le péché au milieu du camp. Le Seigneur lui a ensuite donné la victoire lorsqu'il y a eu réparation de ce péché. Et puis il y a eu la ruse des habitants de la ville de Gabaon. Bien sûr, toutes ces histoires ne seraient que purement anecdotiques ou historiques, un peu poussiéreuses. Si elles n'avaient pas un sens très direct pour nous. Nous avons bien sûr expliqué que cette entrée en terre promise pour le chrétien, c'était l'entrée dans la vie victorieuse en Christ, dans l'Esprit. Et qu'il y avait des batailles dans cette vie selon l'Esprit. Nous avons vu que la première bataille, la bataille de Jéricho, c'est la bataille de notre ennemi, le monde. Toutes les valeurs qui rejettent Dieu mais qui nous attirent autour de nous. Aïe, nous avons dit que c'était la bataille contre la chair, notre vieille nature de pécheur. Parce que là, Josué faisait confiance à ses propres forces, à sa chair en quelque sorte. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'en fait, il y avait un troisième adversaire, le diable. Et qu'il était rusé. Nous avons vu comment les Gabaonites avaient eu recours à la ruse pour tromper Josué et les Israélites. Le diable connaît la parole de Dieu. Il va l'utiliser en la déformant juste un peu. Comme dans le jardin d'Éden où il avait dit à Ève, il avait introduit le doute en disant « Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne vais pas toucher à cet arbre ?» Et là, nous avons vu que le diable leur avait fait croire que ces Gabaonites, ces habitants de Gabaon, venaient d'un pays très lointain. Les Israélites avaient pour commandement de détruire tous les habitants de la terre promise. Mais ils devaient montrer de l'hospitalité aux gens qui venaient de pays lointains. Et donc ces Gabaonites, ici pour nous qui sommes niçois, on dirait ces Antibois. Ils arrivent avec leurs 4x4 couverts de boue. Leurs valises avec des étiquettes d'hôtel à Hong Kong, etc. Je transpose, mais vous pouvez lire le passage. Et là, nous avons vu que Josué ne prend pas le temps de demander au Seigneur ce qu'il en est. Il y a un petit doute, mais il se laisse mettre la pression par les Gabaonites et il leur accorde une alliance. Et maintenant, dans notre passage, nous voyons ce que Josué récolte. À cause du péché, du manque de prière, il doit s'engager auprès de ces Gabaonites contre une alliance de rois cananéens qui veulent les détruire. Et donc nous lisons à partir du verset 1 du chapitre 10, Adoni-Tzedek. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et demeuraient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, envoya dire à Hoham, roi de Hébron, à Piréam, roi de Yarmouth, à Yafia, roi de Lachish, et à Débir, roi de Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. S'étant unis, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish, le roi de Églon, montèrent avec toutes leurs armées, ils établirent leur camp devant Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Sans rentrer dans le détail, c'est toujours intéressant de voir l'étymologie des noms qui se trouvent dans la Bible. Parce que rien n'est au hasard dans la Bible. Adoni Tzedek, ça veut dire maître de justice. Ça nous rappelle le nom d'un autre personnage de la Bible qui s'appelait Melchizedek. En étudiant la Genèse, on voit que ce personnage, c'est le roi de Salem, le roi de paix. Dont il est dit qu'il était le sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est un roi qui n'a pas d'étymologie dans la Bible. Et lorsque nous avons étudié ces passages, nous avons dit qu'en fait Melchisédek, c'est un type, une représentation à l'avance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Certains considèrent que ce Adoni Tzedek, c'est pas vraiment le roi de Jérusalem, c'est comme un imposteur. Et en quelque sorte, il représente le diable. Il attaque le peuple de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous attaquer à Gabaon. Gabaon, l'endroit de notre échec. Et vous le savez bien, vous avez entendu sa voix qui vous a dit Pierre, Nina, Tonio, Steve, tu crois que le Seigneur peut t'aimer après ce que tu viens de faire? Faut pas se moquer du monde. Il nous met le nez dans notre échec. Et nous sommes là. Oui, c'est vrai, j'ai péché. Encore une fois, il utilise la vérité, mais il la déforme. Il dit, tu as péché, donc c'est fini, Dieu ne peut plus t'aimer. Et là, c'est un menteur. Il est vrai que j'ai péché, que je vais encore pécher de ce côté de l'éternité. Mais Dieu continue de m'aimer. Amen. C'est la différence entre la conviction de péché, lorsque l'Esprit Saint nous parle, et vous avez ce sentiment, oui, j'ai péché, pardonne-moi Seigneur. Ce sentiment nous amène vers Christ. Nous revenons à sa croix. Nous nous rappelons son sacrifice pour mes péchés. Et Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Le diable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous condamner. Et la différence entre la condamnation et la conviction, c'est que la condamnation, elle va nous écarter de Dieu. Elle va nous plonger dans le désespoir. Je veux dire, oui, c'est vrai, je suis encore tombé dans le même péché. C'est vrai que Dieu doit en avoir ras-le-bol. Il pardonne 7 fois, 70 fois, mais là... Ça, c'est ce que veut le diable, votre ennemi. Il nous attaque à l'endroit de notre échec, à notre gabaon, là où nous n'avons pas prié. Parce qu'il sait que nous sommes très vulnérables à cet endroit. Encore une fois, lorsqu'on dit que Dieu ordonne la destruction des habitants de la terre promise, l'homme de la rue, le non-croyant, a vite fait de dire un Dieu pareil, j'en veux pas. Un Dieu sanguinaire qui n'est sans pitié. Non, merci. Et nous savons encore une fois par la parole de Dieu que Dieu est juste. Et Dieu est un Dieu d'amour. Il leur avait donné plus de 400 ans. Et même 40 ans, le temps qu'ils ont tourné dans le désert, pendant que les Israélites ont tourné dans le désert, pour se repentir. Mais comme un chirurgien qui doit enlever une tumeur cancéreuse, pour protéger l'organisme entier, Dieu ne fait plus de sentiments comme un chirurgien. Il a donné du temps, il a été patient, mais il arrive un moment où il doit faire cette chirurgie radicale. Cette chirurgie qu'il faisait avec les habitants de Canaan, il veut la faire dans notre vie. Sa parole est comme une épée à double tranchant qui peut séparer jusqu'à la jointure entre la moelle et les os. La croix, c'est l'endroit de cette chirurgie. Il veut extirper le péché de nos vies. Cette chirurgie peut être parfois brutale, mais elle est salutaire. Josué, verset 7, monta de Gilgal, lui et tous ses gens de guerre avec lui et tous les vaillants guerriers. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je te les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Nous n'avons rien à craindre parce que c'est Dieu qui combat. nous n'avons rien de quoi nous enorgueillir, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui remporte les victoires, c'est pas moi. Et dans tout le passage, nous allons voir que c'est répété, c'est Dieu qui donne la victoire à Josué et aux Israélites. Donc, le Seigneur conduit Josué, verset 9, à venir subitement sur eux. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arrivait quand ils furent à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Toutes ces armées en ligue contre l'Éternel, contre Josué, sont défaites par l'Éternel. Et là, le Seigneur intervient. Avec une grêle de pierre. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, ceux qui maudissaient le Seigneur, ceux qui blasphémaient, étaient supposés recevoir la punition de lapidation. Toute la communauté devait leur jeter des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Jésus parle du blasphème dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 12, 31, il dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Matthieu 12, 31. Il y a beaucoup de controverses sur qu'est-ce que c'est vraiment que ce blasphème contre l'esprit. Nous avons déjà parlé de ce sujet, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en fait le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous montrer que nous avons besoin de Christ. C'est le blasphème suprême. C'est l'incrédulité, dire que Dieu n'existe pas. Dans l'Apocalypse, au chapitre 16, il est question de la grande bataille d'Armageddon. Des armées qui, là aussi, sont en guerre contre Dieu. Il est dit au verset 21, une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême. Dans la fin des temps, il y aura donc des puits de grêlons qui pèseront entre, on n'est pas tout à fait sûr, mais on dit entre 30 à 50 kilos. Et c'est ce que Dieu utilise déjà dans cette bataille contre Gabaon. Il y en a, la plupart meurent par des pierres de grêle. L'homme se croit puissant. Nous pensons avoir découvert les secrets de l'atome. Mais Dieu nous dit qu'il a des réserves de grêle. Dans Job 38, 22, pour montrer à Job qu'il n'est pas Dieu, il lui dit: es-tu parvenu aux réserves de neige? As-tu vu les réserves de grêle? God is turning. Que j'ai mise de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre. Et donc, ici, ces troupes-là aussi sont en train de dire que Dieu n'existe pas, le Dieu d'Israël n'est pas un vrai Dieu. Ils avaient la chance, comme Rahab, de reconnaître que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Ils blasphèment. Ils sont lapidés. De nos jours, les hommes blasphèment Dieu. Un jour, ils seront lapidés. Josué voit cette victoire, cette défaite des ennemis. Mais quelque part, comme vous et moi, il se dit: il y a pas assez d'heures dans la journée. On ne va pas finir complètement le travail. Peut-être qu'il pense plus justement: Dieu a besoin d'un peu plus de temps pour complètement exterminer ses ennemis. Verset 12, alors Josué parla à l'Éternel. Et ça, c'est toujours une très bonne idée, de parler à l'Éternel. Quand vous avez des problèmes, des interrogations, des peurs, mais aussi des joies, des victoires, mais parlons à l'Éternel. Josué parle à l'Éternel pour demander: soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Deux endroits où se trouvaient les combattants. Gabaon était plutôt au sud, et la vallée d'Ayalon, c'était au nord-ouest. Et on peut dire que Josué fait preuve de courage. Parce que demander aux astres de s'immobiliser, c'est risqué. Soit vous apparaissez comme le plus parfait des idiots, ou alors votre foi est sincère, Dieu répond et vous êtes comme un héros. Mais Josué est peut-être insufflé par ce don de foi, et il fait cette prière extraordinaire de demander au temps de suspendre son vol. qui rend la poésie de Lamartine prenante, c'est que bien sûr c'est une prière impossible, autant suspend ton vol. Mais ici, Dieu répond à la prière. Agissant du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques.
James speaks about it.
Is very effective. Jésus nous disait, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je sais pas si c'était Jacques qui disait ça aussi. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus disait, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. La prière, cette clé pour faire agir la main de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Quel ami fidèle et tendre. Les paroles en anglais disent, je crois que ce n'est pas bien traduit, que de soucis, que de tracas, de problèmes nous accumulons sur nous parce que nous ne les portons pas au Seigneur dans la prière. Des fois, nous pensons que les choses sont inévitables. Qu'il va falloir dépenser 250 euros pour remplacer ce petit bout de microphone pour que le haut-parleur marche. Qu'il va falloir dépenser 100 ou 150 euros pour remplacer le Game Boy de Capitaine qui s'est fait voler à McDonald's hier. Et trop souvent, nous oublions de prier. Trop souvent, nous oublions que Dieu est tout-puissant. Et que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Effective righteous prayer of the righteous. Un miracle. Dieu n'hésite pas à faire un miracle. Les non-croyants ont du problème avec les miracles. Et ils pensent que cette histoire biblique prouve que la Bible est un tissu de mensonges. Pourquoi ? Parce que ils croient que les choses sont comme elles sont, comme elles ont toujours été et que rien ne change. Et pour ceux qui étaient là, il y a quelques années, on avait eu Mark Knudson de la Calvary Chapel de Eugene en Oregon qui nous avait parlé des aspects scientifiques possibles de cet événement. Pierre, déjà, reprenait ceux qui pensaient que rien ne changeait dans l'univers.
Peter, in his day, already scolded people who believed that nothing happens or changes in the universe.
Il disait dans 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création.
He tells us in 2 Peter 3, verse 3, know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mocking, following after their own lusts and saying, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation.
Bonjour à la Panthère Rose. Et Pierre dit qu'en fait, Pierre va utiliser le fait que le monde a été créé pour dire que tout n'est pas sans changement et qu'il y a eu aussi un déluge qui a complètement transformé le monde. Et en fait, lorsqu'on regarde à l'histoire de l'humanité, dans les anciens écrits, des Mayas, des Incas, des Maoris, des Teutons, des Chinois, des Africains, on peut se dire que si quelque part il y a eu une longue journée, au-dessus de Gabaon, ça veut dire que quelque part ailleurs il y a eu une longue nuit. Et un scientifique qui n'est pas chrétien, qui s'appelle Emmanuel Wilakowski, a fait des recherches dans ces genres d'écrits anciens. Et trouver qu'en fait, il est question d'une longue nuit dans beaucoup de civilisations à l'opposé de Gabaon. L'idée, c'est un peu que comme si vous êtes dans une voiture et que soudain la terre s'arrête, tout le monde va se cogner la tête contre les autres. Verset 13, il est dit que le soleil se tint immobile et la lune s'arrêta. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'hâta point de se coucher presque tout un jour. Mais quelqu'un faisait les calculs et disait que si la Terre s'était arrêtée en 6 heures, elle aurait pu commencer à ralentir en 6 heures. L'accélération sur vous, ce serait comme de passer de 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, à zéro, à l'arrêt, en 20 minutes. Si il fallait seulement 30 secondes pour arrêter la Terre, ça serait passé de 100 km à 0 km en 8 minutes. Donc c'est vrai, on ne le sentirait même pas. Cet auteur, Emmanuel Wilakowski, remarque que de tout temps, les peuples ont été terrifiés par les astres. Sans doute parce qu'il s'est passé quelque chose avec les planètes qui avait de quoi les terrifier. Nous avons une année de 365 jours et un quart et quelques secondes.
Quelques
Tous les calendriers des peuples antiques comptent 360 jours. Les Mayas, les Chinois, les Chaldéens, les Égyptiens, les Romains, les Grecs. Dans un cercle, nous avons combien de degrés ? 360 degrés. Une autre chose, c'est que de toutes les planètes, c'est la planète Mars qui est la plus redoutée. Le Dieu, c'est la planète Mars qui est la plus redoutée.
Feared.
La Bible parle de la colline de Mars dans Acte 17, l'aéropage. À Athènes, les gens avaient peur de Mars, c'était le dieu de la guerre, Arès. Des scientifiques ont étudié la rotation de Mars. Qui fait aujourd'hui une rotation autour du Soleil en 687 jours. Ils ont remarqué que tous les 54 ans ou les 108 ans sur la Terre, dans l'Antiquité, il y avait des catastrophes. Oui, des météorites, des raz de marée. Certains sont décrits dans la Bible. D'autres se trouvent dans les anciens écrits. Et ils ont, pour reprendre la notion de 360 jours, ils ont essayé de voir ce que donnerait une orbite autour du Soleil pour Mars en 720 jours, dans le ratio de 2 à 1. Ils ont vu que là, il y aurait deux orbites entre la Terre et Mars. Leurs deux orbites se couperaient en deux endroits. Et qu'à un moment donné, les deux planètes pouvaient être à 10 000 km l'une de l'autre. Et dans ces conditions, Mars apparaîtrait 50 fois plus gros que la pleine Lune sur Terre. Alors les orbites étaient en place de cette façon, mais le 25 octobre 1404 avant Jésus-Christ, les planètes seraient effectivement placées l'une à côté de l'autre. Cet auteur suppose que comme deux aimants, les planètes se sont retournées. Polar axis. Shift.
A shift.
Qui n'aurait pas affecté les vitesses de rotation. Et qui expliquerait que ce jour-là, on serait reparti dans l'autre sens, le jour aurait duré deux fois plus. Alors ça, ce n'est pas la Bible qui explique ces choses. Mais encore une fois, c'est pour montrer que ce que dit la Bible, on devrait y prêter plus attention. Si vous avez des livres scientifiques qui datent de 10 ans, vous pouvez les jeter. La Bible, par contre, elle ne change jamais. Et pour donner crédit à cette théorie, ou moins cette recherche de Emmanuel Villakovsky, est-ce que vous savez en quelle année a été inventé le télescope? La même année que Henri IV a été assassiné par Ravaillac. En 1610, par Galilée. Galilée a découvert cette année-là les anneaux de Saturne. Quatre satellites de Jupiter. Mais c'est seulement en 1877 qu'on a découvert que Mars avait deux petits satellites. Qu'on a appelé Phobos, la crainte, et Deimos, la terreur ou la panique. Non, panique. Qui sont tout petits. Le plus grand ne fait que 27 sur, kilomètres sur 21. Ils sont sombres, on ne peut pas les voir très bien. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est question de ces satellites de Mars. Dans les voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift en 1726. Par Voltaire dans Micromégas, c'était pas un ordinateur. En 1752, si vous lisez le dictionnaire français Quid, dans la section astronomie, ils disent que Jonathan Swift et Voltaire ont parlé des satellites de Mars sans qu'on sache comment ils les connaissaient. Ils pouvaient les connaître. L'explication, c'est que ces auteurs avaient eu connaissance d'écrits antiques. Et qu'un jour, il y avait eu un Mars dans le ciel, gros comme 50 fois la Lune, avec deux petits satellites qu'on voyait à l'œil nu. La Genèse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et ça devrait nous suffire comme explication. Ces recherches scientifiques ont le mérite de montrer la validité possible de la Bible, du récit biblique. Et de rappeler à l'humilité les hommes scientifiques. Verset 14, il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les cinq rois s'enfuient, se cachent dans une grotte, c'est le reste du texte. Verset 18, Josué leur dit de bloquer ces hommes par des grosses pierres à l'entrée de la grotte, ça nous rappelle quelque chose. Jésus mis au tombeau, cette grosse pierre roulée devant la grotte.
Tomb,
Mais vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis. Le Seigneur veut nous dire ce matin, ne nous arrêtons pas. Poursuivons nos ennemis. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Paul disait, je n'ai pas encore atteint le but. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus, Philippiens 3, 14. Ne laissons pas l'ennemi nous entraver. Allons vers la victoire. À la fin, on voit que verset 24, les capitaines des gens de guerre d'Israël sont invités par Josué à mettre leurs pieds sur le cou des rois en signe de victoire. Josué, verset 25, « Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et les restait pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna de les descendre des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés. On mit à l'entrée de la grotte de grosses pierres. Elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel veut nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Le monde, le système de valeurs qui rejette Dieu. La chair, notre vieille nature de pécheur qui est sensible à tout ce que le monde a à offrir. Et le diable qui est le Dieu de ce monde. Dieu veut nous donner la victoire sur tous nos péchés. Jésus nous invite à avoir la victoire, à pouvoir mettre le pied sur ses péchés, sur leur cou. Si nous suivons le Seigneur, si nous comptons sur lui, nous avons la victoire. Un commentaire sur ce passage se trouve dans Ésaïe 28:21. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, il se mettra à frémir comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'en fait, lorsqu'il est question de ce travail étrange, qui est extraordinaire dans le sens où il n'est pas ordinaire, c'est quelque chose qui est étranger à sa nature, c'est de supprimer l'homme, de le punir. Dieu n'aime pas punir. Dieu veut nous sauver. Dieu nous aime. Il veut faire au contraire un travail d'amour et de salut en chacun de nous. Et Dieu est tout puissant pour faire cette œuvre. Dieu créa les cieux et la terre. Et il vous a créé. Il vous a aimé au point de mourir sur la croix. Ne vous épouvantez pas. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce récit biblique. Merci pour la démonstration de ta puissance, la démonstration aussi de ton amour, Seigneur, pour l'homme. Ce que tu as prêt à faire pour ton peuple, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'aiment. Et Seigneur, tu veux que tout soit appelé à la repentance. Tu veux que tout soit sauvé. Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous n'avez jamais placé votre confiance en lui, le Seigneur dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il vous invite à venir à lui. Vous pouvez prier cette prière dans le silence de votre cœur. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Que j'ai vécu jusque-là pour moi. Que mes meilleures actions, Seigneur, ne peuvent pas te plaire. Parce qu'elles sont comme les bonnes actions de quelqu'un qui serait atteint d'une maladie contagieuse. Seigneur, je te demande de venir me soigner. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes y prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, je veux changer de direction, aller vers toi et ne plus aller vers le péché. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, fais de moi l'homme, la femme que tu veux que je sois. Seigneur, je crois que tu en es tout à fait capable. Le miracle, ce n'est pas que tu puisses modifier l'astronomie ou utiliser les lois de l'astronomie pour modifier les lois auxquelles nous sommes habitués. Mais que tu viennes me sauver. Seigneur, accomplis ce miracle aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie cette prière. Pendant que nous sommes dans le recueillement, toujours inclinés, les yeux fermés, si quelqu'un a prié cette prière, je l'invite à lever la main pour que je puisse prier pour elle. Vous pouvez réaliser que toutes les prétentions scientifiques reniant l'existence de Dieu ne tiennent pas la route. Et la Bible est la parole de Dieu. Elle vous assure de son amour. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour cet amour et te demander d'être présent avec nous toute cette semaine.
Lord, we want to thank you for your love and we ask you to be with us all this week.
aide-nous à te parler. Et sois celui qui remporte toutes nos victoires. Amen.